Alors, devoir de Sandro Cravello. Bon, je ne suis pas convaincue par l'argumentation. Hein. Je crois que le plan, pas fantastique. Et puis le fait que tu dises qu'il n'y a pas d'autres documents, oui, mais c'est un choix. Hein. C'est le choix de celui qui propose le sujet. Donc, il faut que tu t'y plies. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher un regard critique de ce côté-là, hein, je pense. C'est pas. Je trouve que c'est un petit peu redondant. Je suis pas toujours. Je trouve que l'argumentation tourne un petit peu en rond. On y va, on commence. Donc j'aime la présentation, c'est bien. Hein, donc d'accord. Peut-être que tu aurais pu dire que, en ce qui concerne le deuxième document qui date des années 60, on est à la veille des deux grandes crises, hein, crise du mur de Berlin, donc la construction du mur, et puis la crise des fusées. Hein, donc on est dans une période qu'on a dit de coexistence pacifique, qui va de 56 à peu près à 62, hein, donc après c'est la détente, de 53 à 62, ici pour les documents, 56 pour la coexistence pacifique, donc on s'inscrit en fait dans la guerre froide classique, c'est surtout ça que je verrai. Alors, nous verrons dans un premier temps, je vois que, la vision bipolaire du monde, caractéristique de la guerre froide, oui, et qui s'immisce hein, donc, dans la décolonisation, je crois que c'est ça qu'il faut voir, hein, l'extension de la guerre froide aux colonies, hein, donc aux pays en voie de décolonisation. Et puis après, nous verrons que les communistes sont au cœur du processus de décolonisation, oui, mais parce que leur idéologie qui prône l'émancipation, hein, donc peut-être plus convaincante, on va dire ça, mais les Américains ne se tiennent pas éloignés non plus. Hein, donc voilà. Et donc les États-Unis en sont les premiers produits bénéficiaires plutôt. Hein. Donc il y a donc bel et bien une volonté d'opposition de ces deux modèles après la guerre de Corée. D'accord. Il s'agit du premier vrai conflit de décolonisation dans cette guerre froide. Ah, d'une certaine manière, oui, et d'une certaine autre manière, non. Puisque, en fait, la Corée, qui a été colonisée par le Japon, a été libérée dès 1945. Donc là, on est plutôt, en ce qui concerne la guerre de Corée, dans un conflit classique de guerre froide. Hein, donc, je ne le mettrai pas ici. En fait, ce qu'il faudrait que tu montres, c'est que la vision de John Foster Dulles, qui est quand même le ministre des Affaires étrangères, c'est ça que ça veut dire, secrétaire d'État américain, c'est que c'est un discours de containment. Hein, donc c'est très classique, où il dénigre l'ennemi, et donc l'URSS a une stratégie de conquête mondiale, hein, donc ici, et donc ligne 6, elle a un programme d'agitateur communiste hein, qui stimule les aspirations nationalistes jusqu'à la rébellion violente. Bon, là, c'est le mythe de la cinquième colonne, hein, donc ici, qui est un mythe qu'il faudra expliquer, hein, donc avec infiltration et noyautage des nouveaux gouvernements, donc une stratégie secrète hein, donc, d'infiltration qui semble désigner les peuples qui choisissent donc de lier leur sort au communisme comme des gens qui se sont laissés, qui se sont laissés séduire, voire berner. Hein. Donc les communistes sont déguisés en patriotes locaux, hein, et donc tout ça pour une servitude plus dure, menace communiste, etc. Bon, on a compris, c'est un discours de containment, hein, donc ici. Alors qu'il faut que tu mettes face à des patrons, hein, donc ici, et que tu mettes dans son contexte, c'est la fin de la guerre de Corée, 53, et donc on est dans la phase de décolonisation du continent asiatique, et l'agitation, eh bien, elle se passe en Indochine, hein, donc où il y a une guerre. Et donc là, ce qui s'adapte particulièrement bien au discours de ce que dénonce John Foster Dulles. Hein. Et donc, effectivement, tu dis que le Viet Minh et Ho Chi Minh ont choisi le communisme. Hein, depuis le 2 septembre 1945, la République populaire du Vietnam a été proclamée indépendante par Ho Chi Minh et que la guerre d'Indochine a commencé un an après. Donc, voilà ce qu'il faut voir. Alors après, moi, je regarderai, la guerre froide s'étend, moi, c'est mon idée, hein, s'étend aux colonies qui luttent pour leur indépendance ou qui sont nouvellement indépendantes. Ben, deuxième document, c'est le Congo belge, donc on est en 60, là c'est l'Afrique. À partir de 56, donc tu l'inscris dans la décolonisation, 56 jusqu'à les années 60, hein, donc on a la décolonisation africaine et le Congo belge qui vient d'acquérir son indépendance est gagné par la guerre froide, puisque aussi bien l'URSS que les États-Unis hein, donc, vont y faire leur entrée. Et donc là, l'URSS représentés par Khrouchtchev. Alors il y a la Chine aussi qui apparaît, c'est Mao Zedong. Tous deux sont des portiers qui proposent de porter la valise de Lumumba. Ils se mettent au service de Lumumba. Lumumba, c'est le premier ministre congolais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils rivalisent tous les deux pour porter sa valise. Donc ça veut dire que le divorce sino-soviétique est visible là. Et en réalité, c'est l'URSS qui va apporter son soutien à Patrice Lumumba. Donc les États-Unis vont aider son opposant, enfin l'opposant de Lumumba, son adversaire plutôt, Moïse Tshombe, t'es pas obligé de connaître son nom, et donc qui va procéder à l'arrestation de Lumumba et à son exécution, avec l'aide de la CIA. Voilà, c'est vraiment le Congo belge, c'est l'illustration de l'irruption de la guerre froide dans les pays en voie de décolonisation. Alors, c'est pour ça que moi j'ai du mal à suivre ton argumentation, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ce n'est pas efficace. Moi j'aurais mis en deuxième partie les peuples en voie d'émancipation sont tentés, bien sûr, par le ralliement à l'un des deux blocs, qui peut apporter du soutien, des armes, quand ils sont en lutte, etc. Donc on prend les exemples. Quels exemples? Eh bien, Patrice Lumumba au Congo, si tu veux, effectivement, qui va d'une certaine manière, à un moment, se rapprocher de l'URSS. Ho Chi Minh, communiste depuis l'entre-deux-guerres, a créé une organisation qui s'appelle le Viet Minh et qui s'établit essentiellement au Vietnam du Nord. En Afrique noire, ça va être surtout la Guinée, avec Sékou Touré, un petit peu l'ex-Gold Coast, le Ghana, mais bon, voilà. Effectivement, pourquoi est-ce qu'ils se cherchent ces puissants parrains? Parce que ce sont des grandes puissances, puis parce que tous deux se sont prononcés contre la colonisation. Les États-Unis, historiquement, tu l'as dit, 4 juillet 1976, guerre d'indépendance et déclaration d'indépendance, et l'URSS se fonde sur la dénonciation de l'exploitation de l'homme par l'homme. Dès la création de l'URSS, Lénine a bien condamné le colonialisme. Moi j'aurais fait cette partie-là, puis une dernière partie pour montrer que les conséquences les liens, c'est que les conflits, au lieu de se dérouler entre États-Unis et URSS, qui sont impossibles à cause de la possession de la bombe, vont plutôt avoir lieu les colonies, et parfois poussées par la guerre froide. C'est le Congo belge, par exemple, où les violences vont arriver après la proclamation de l'indépendance, qui est réalisée en juin 60, et donc les violences commencent après, et donc jusqu'au coup d'État, la prise du pouvoir par Mobutu, on est à peu près en 65. C'est aussi décolonisation, c'est une guerre de décolonisation que la guerre d'Indochine, mais aussi ravivée par la guerre froide, puisque les Américains soutiennent les Français du point de vue financier. Donc il faut expliquer pourquoi ils se défendent ici d'une accusation comme quoi ils ne pousseraient pas vers l'indépendance. C'est la ligne. Toute la ligne 14 à la fin, il dit parce que on est en train de repousser le communisme, et puis parce que quand même on pousse davantage que vous ne pensez, parce que c'est l'imposition à la France, on vous aide, mais vous déclarerez l'indépendance du Vietnam, débarrassez des communistes, voilà. Et il dit bien, on ne leur a pas donné de chèque en blanc aux Français, ce qui est vrai, mais en même temps, ils vont être entraînés dans cette guerre. Alors, tu as une deuxième partie, je ne suis pas du tout d'accord. La décolonisation, tu vois, j'ai mis point d'interrogation, pour retourner dans un système où un pays aurait encore la main sur le pouvoir serait contre-productif. Je vois à peu près ce que tu veux dire. Alors, la référence à Spirou, à Tintin, tu oublies, là, parce que c'est quand même publié dans le New York Times, les Américains n'ont pas ces références-là du tout, Donc je suis pas d'accord. C'est dommageable qu'on n'ait pas un document, N'AIT, moi j'ai quand même écrit attention à la grammaire. Et puis non, c'est comme ça, c'est un choix. Je crois que après, qu'est-ce que tu m'as mis la page suivante? Je comprends pas ta conclusion. La décolonisation est donc représentée du point de vue occidental et surtout américain, oui, bien sûr, comme le responsable de la vague de décolonisation. C'est pas très clair là. Donc voilà. Bon, c'est pas fantastique, hein, c'est pas percutant, mais bon, tu étais là, tu étais présent, tu as été régulier. Tu peux tomber sur un sujet qui te plaira davantage ou que tu auras peut-être davantage de connaissances. Bon, là, on est dans du classique, hein, donc du programme de terminale. Voilà, il faut pas faut pas baisser les bras, hein, donc au contraire, donc je pense que il faut tout tenter, hein, donc c'est un concours, voilà. Et donc le fait que tu aies été régulier toute l'année quand même, penche, c'est plutôt pas mal, hein, donc ici. Et donc là je te mets on est à 9, hein, donc pas tellement plus, mais bon. Tu peux faire mieux dans les deux autres épreuves. Hein. Donc ici, et puis tu vois, quelquefois c'est bien, quelquefois c'est moins bien. Bon, voilà. Bon, en tout cas, je t'encourage, hein, à continuer, vu la constance dont tu as fait preuve toute cette année.